Le commentateur de football de demain, c'est d'abord un passionné. Il n'a pas forcément fait d'école de journalisme. Il a du style et il n'était peut-être pas né en 98. Ce qui est sûr, c'est que le commentateur de demain, c'est un compétiteur. Il va nous le montrer sur Canal+.
Trouver une nouvelle voie pour le foot, c'est le défi que se lancent Laure Boulot, David Ginola et Hervé Matou dans l'émission Au Micro, ce soir seulement sur Canal+.
Vous écoutez
RMC. RMC. 9h midi.
Pardon, me touchez pas.
Celles que c'est parti, tiendront les délais.
Les grandes gueules du sport.
Et le match commence.
François Pinet.
Bonjour à tous, il est 9h08, ravi de vous retrouver pour les grandes gueules du sport. C'est en direct sur RMC de 9h à midi tous les week-ends. Bon réveil à vous, bon courage si vous travaillez, on vous accompagne toute la matinée avec un programme de qualité. Dans un instant, on parlera de Zinedine Zidane qui souhaiterait retrouver un banc prochainement puisque les Bleus, ben, c'est fini pour l'instant. La Juve, le Real, le Bayern, le PSG, 4 options seulement pour Zizou. Est-ce qu'il est trop exigeant? L'avis de nos GG, c'est dans un instant. À 9h30, un autre Z, le Z de Zlatan, qui nous offre une punchline dont il a le secret. Pour lui, les Argentins ne gagneront plus rien parce qu'ils se sont mal comportés après leur titre de champion du monde. Êtes-vous d'accord avec Ibra? Est-ce que les vainqueurs ont tous les droits? On en parle avec nos GG dans un instant. Et puis à 10h, les grandes gueules qui passent la seconde sur le 15 de France. Nous sommes à une semaine du tournoi Destination, à moins de 8 mois de la Coupe du Monde. Est-ce que la manière, la façon de gagner a de l'importance? Et on reviendra bien sûr aussi sur les secousses autour de la Fédération Française de Rugby avec les dernières infos de Wilfried Templier. À 11h, dans les GG, le bras de fer. Vous connaissez la musique. Le comité olympique ouvre la porte à un retour des athlètes russes lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Choquant ou pas choquant, nos grandes gueules vont devoir choisir leur camp. On vous attend aussi sur Twitter, hashtag RMC Live, et sur l'appli RMC Direct Studio et le 32-16, bien sûr, ouvert dès maintenant pour nous rejoindre en fin d'émission. On suivra aussi, bien sûr, la finale dames de l'Open d'Australie entre Elena Rybakina, la Kazakh, et Arina Zabalenka, la Biélorusse. Ça sera avec Eric Salio à partir de
9h30. Merci, les joueurs sont prêts.
Et les joueurs de ce matin, l'équipe des GG composée ce matin d'une grande gueule qui, comme Bernard Laporte, va bien finir par tomber. Christophe Cessieu est là. Salut Christophe.
Oh, peut-être un jour, sait-on jamais. Moi, j'ai pas encore fait le garde à vue, mais...
L'enquête est en cours, hein, Christophe. En tout
oui,
cas.
Oui, t'inquiète.
Au courant.
Non, je suis au courant. ça va finir par arriver.
Une grande gueule qui, comme Bernard Laporte, a longtemps été consultant sur RMC. Denis Charvet, tu savais pas, Denis? Désolé, on se la prend comme ça. Ça va, Denis?
Au démarrer fort, hein, on ne devait pas en parler. Je crois que la direction avait dit qu'on n'en parlerait pas. Mais bon,
continue.
Vas-y, troisième. Vas-y, continue.
On parle juste de ton rôle de consultant. Non, c'est tu es avec nous aujourd'hui. On est très content de t'avoir, bien sûr. Denis, une grande gueule qui, comme Bernard Laporte, devrait faire attention à ses fréquentations. Stephen Brun, salut Stephen.
Salut François, salut tout le monde.
Ça va?
En pleine forme.
Et une grande gueule qui, comme Bernard Laporte, a été payé par nos impôts pour serrer des paluches et inaugurer des gymnases. C'est David Douillet. Salut David.
Ouais, mais ça s'appelle ministre et c'est du boulot, mon pote. Je le dis.
Bel emploi fictif, hein, quand même.
Ouais, t'as raison, mais. je vois que t'as pas embrassé cette carrière. Il faut beaucoup de courage, quand même.
En fait, j'ai embrassé d'autres choses, moi. Pas cette carrière.
Ouais, c'était un peu plus mal, hein.
Ça commence très fort. Pour commencer, justement, les GG, on va parler de Zidane. Parce que nous, chez les GG, on n'en a pas rien à secouer de Zizou.
La une des grandes gueules du sport.
Entraîner Marseille, c'est pas impossible. En revanche, je pense entraîner PSG, du coup, ça, c'est impossible.
Comment ça, non? Tu vas pas nous faire un caprice, hein? Allez.
Je suis marseillais, je m'interdis rien. Faut jamais dire jamais, mais ça va être certainement compliqué.
Pas ça, Zinedine.
Surtout en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, c'était peut-être différent.
Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
Je te vois qu'il parle là-bas. Alors, en général, là, il faut aller où il veut.
C'est les opportunités qui font le reste.
Monsieur Télécapriste, mais c'est très vilain.
Je suis pas loin, je suis là, je suis toujours là.
Zinedine Zidane qui s'est fait une raison, et oui, l'équipe de France, c'est pas pour tout de suite. Alors l'ancien coach du Real Madrid, qui a pu entraîner depuis 2 ans bientôt, pense retrouver enfin un banc. En tout cas, c'est une éternité, hein, 2 ans pour Zidane, et son ombre plane régulièrement au-dessus des grands clubs d'Europe. Pourtant, Zizou, il ne souhaiterait pas aller n'importe où. Et on vous détaille dans un instant les options possibles pour Zidane. Mais d'abord, cette question, les GG. Musique qui fait peur. Zinedine Zidane, est-il trop exigeant? Oui ou non? Denis Charvet.
Non.
Non. Stephen Brun.
Oui.
Oui. Christophe Cessieux.
Non.
Non. Et David Douillet.
Non.
Non plus. Juste avant de débattre, Fabrice Hawkins nous a rejoint. Salut Fabrice.
Salut François, salut à tous.
Alors, quelles sont les options possibles pour Zinedine Zidane pour retrouver un banc, enfin?
Selon nos informations, quatre clubs sont susceptibles d'intéresser Zinedine Zidane. Il y a d'abord le club italien de la Juventus qui a une place à part dans la carrière et la vie de Zidane. Seul bémol et pas des moindres, le club de la vieille dame est sur la pente descendante. La Juve a été sanctionnée par la justice italienne et a perdu 15 points au classement. Les espoirs de jouer l'Europe s'éloignent. Ce n'est donc pas le contexte idéal pour Zizou. Ensuite, il y a évidemment le Real Madrid, club de cœur du Ballon d'Or 98, avec lequel il a remporté 3 fois la Ligue des Champions. En Espagne, il a tout gagné en tant que joueur et entraîneur. Néanmoins, ses relations avec Florentino Pérez, le président, sont moins fluides depuis son départ en 2021. Un retour à la Maison Blanche semble improbable. Le troisième club qui pourrait cocher toutes les cases pour accueillir Zidane, c'est le Bayern Munich. L'ancien numéro 10 des Bleus a toujours eu beaucoup de respect pour cette institution. Les moyens financiers du club allemand permettent d'être compétitif en championnat et en Ligue des Champions. L'inconvénient de cette option, c'est la barrière de la langue. Zidane ne parle pas allemand. On sait que c'est important pour lui de maîtriser la langue du pays dans lequel il entraîne. Enfin, une quatrième option qui mène au PSG. L'émir du Qatar a beaucoup d'admiration pour Zinedine Zidane et voulait le faire venir d'ailleurs l'été dernier pour remplacer Mauricio Pochettino. Zidane avait décliné pour tout miser sur l'équipe de France, le contrat de Dédé arrivant à échéance. Mais malgré ce refus, François, Zidane n'est pas du tout resté indifférent à cette approche.
Ah, merci beaucoup Fabrice. Effectivement, quatre options. Voilà les informations d'RMC Sport. Vous pouvez les retrouver sur rmcsport.fr. Et on peut retrouver aussi toutes les infos Mercato. Donc, bonne journée à toi parce que là, c'est
merci.
Parti. Tu ne t'arrêtes jamais en ce moment. C'est Mercato, Fabrice.
C'est quand la sieste? C'est quand ça se termine?
Le 1er février.
Voilà. Ah, il ne dort jamais jusqu'au 1er février. Bon courage, bon marathon. Je rappelle la question. Donc, Zidane est-il trop exigeant? On va commencer par toi, Stéphane, puisque oui. Tu es le seul à avoir dit oui. Bah, tu es le seul à avoir dit oui.
C'est vrai. Alors déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il a conscience qu'il faut qu'il prenne un banc de touche. Parce que moi, il était hors de question que Zinedine Zidane soit le nouveau Laurent Blanc. C'est-à-dire, j'attends 1, 2, 3, 4, 5 ans le club de mes rêves et je disparais un petit peu de la carte. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il veut recoacher. Maintenant, avoir de l'exigence quand tu as gagné 3 Champions League, c'est normal. Il va pas se jeter sur le poste vacant du SCO d'Angers ou du Gazélec d'Ajaccio. Je pense qu'il... Le terme shortlist, il porte bien son nom. Il n'y a pas assez de clubs. Moi, je trouve que Zidane se ferme une porte qui est la Première Ligue où il ne veut pas aller parce qu'il ne maîtrise pas l'anglais. Ça fait plus d'un an maintenant qu'il n'entraîne pas. Qu'est-ce que tu fais, gros? C'est primordial dans une carrière d'entraîneur d'être bilingue et de parler couramment anglais. Ça veut dire que la Première Ligue, qui est le championnat le plus puissant au monde, avec des clubs aux moyens colossaux, qui jouent la Champions League, avec des salles magnifiques, ça veut dire que ce championnat, il n'existe pas pour toi. Chelsea qui est en brave galère, ou Graham Potter, on ne sait pas s'il va pas sauter avec des moyens illimités. Peut-être la fin d'une histoire à Liverpool, entre Liverpool et Klopp. Ce sont des clubs mythiques où Zidane ne ferait pas tâche sur ce banc de touche-là. Lui, il se ferme des portes. Un retour au Bayern, au Real, vous avez vraiment envie de voir encore Zidane sur le banc du Real? On n'en a pas marre. Il a fait tout ce qu'il avait à faire au Real Madrid. Moi, j'ai envie de le voir ailleurs, Zinedine Zidane. J'ai plus envie de le voir chez Madrid. Et chez Florentino Pérez. Donc je pense qu'il y a d'autres clubs que ça. La Juve, ils vont pas faire Coupe d'Europe. Je pense que Zidane, il est trop enfermé dans un projet de je veux aller là où ça me plaît, où ma femme va être bien, où je parle la langue. C'est pas suffisant. Je pense qu'il y a d'autres clubs, il ferme trop de portes, Zidane.
D'abord l'Angleterre, c'est pour des raisons familiales. Donc déjà tu oublies l'Angleterre.
Oui, mais c'est ce que dit Denis.
Le problème c'est que c'est pas que lui qui choisit, c'est la famille. Donc il y va pour raison familiale, c'est pas que des problèmes de la langue. Mais bon, à côté de ça, je pense que le Zidane, il est pas exigeant du tout. Il est surtout lucide de ses limites aussi, peut-être. C'est-à-dire qu'il a entraîné un club où il y avait des stars. Il a été très fort au niveau de la gestion des stars, au niveau du vestiaire. En tant qu'entraîneur, on ne connaît pas ses qualités finalement. On connaît pas toutes ses limites en tant que qualité, en tant qu'entraîneur, je veux dire. Après, c'est un milieu où on voit aujourd'hui qu'il y a une valse des entraîneurs systématique. Et que si
on peut pas dire que qu'il ne prend pas de risque en allant dans un club aujourd'hui. Donc il essaye de minimiser le risque et je trouve que c'est intelligent de sa part. C'est-à-dire aller à la Juve aujourd'hui dans le contexte économique de la Juve, c'est très dangereux. Aller au Bayern, c'est pas sa culture, c'est pas du tout. Il est loin.
Donc il reste quoi? Il reste le PSG en gros, c'est
oui,
ça?
Oui, je vais finir.
Denis, démarre par là.
Non, je vais finir. Donc le Bayern, c'est pas sa culture et puis c'est pas. Il est loin de cette mentalité-là. C'est pas son état d'esprit non plus. Après, il restait quoi? Madrid,
visiblement, c'est compliqué.
Après, l'erreur qu'il a faite, peut-être, c'est de refuser le PSG. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est joué à deux doigts.
Parce qu'il voulait l'équipe de France à ce moment-là.
Voilà, il a essayé de jouer l'équipe de France. Mais je pense que c'est le seul au monde pour pouvoir gérer le vestiaire.
Donc ça veut dire que tu dégages Galtier tranquille?
Non, pas du tout. Mais non, Galtier,
on est instant, il le met.
Non, mais non, je ne vais pas du tout.
Le gang des Marseillais à la tête du PSG.
On parle de Zidane, on ne parle pas de Galtier, là.
Donc,
ne me fais pas dire ce que je ne dis pas d'abord.
Marseillais, ça
je n'ai rien
pas.
Contre Christophe Galtier qui va gagner la Champions League cette année d'ailleurs. Son passé
les origines marseillaises, ça te dérange pas?
Non, pas du tout. Mais Marseillais, que par il n'y a que Dimeco qui l'ouvre Marseillais. Quand on dit Eric Dimeco, il me fait croire qu'il rêve de Marseille. Mais il n'a jamais dit, j'ai jamais lu. Alors il paraît qu'en Angleterre ou à New York, il a dit je rêve d'entraîner Marseille.
Ça serait peut-être courageux de sa part. Se dire, tiens, je vais prendre l'équipe de Marseille.
Bien sûr, pour se planter, se faire virer au bout de 6 mois. Ouais. Ce serait très courageux, mais c'est surtout pas intelligent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a une posture où il est très intelligent, très lucide, et que il n'est pas 6 mois prêt, il n'est même pas un an prêt pour entraîner. Et je pense qu'il est en train de faire.
Il est en train de faire le
bon choix, mais le bon choix, c'est pas évident aujourd'hui. Par rapport à un mec comme lui qui représente une certaine philosophie de jeu, mais moi, je trouve que c'est prendre un risque aujourd'hui d'aller dans un club comme le Bayern, comme le Juve aujourd'hui, parce que c'est des contextes difficiles pour lui.
Denis Guardiola n'était pas forcément compatible avec le Bayern. Il est parti au Bayern, il parlait pas la langue, il a appris l'allemand au bout de 6 mois. Enfin, Zidane, il peut faire des efforts quand même.
Ah, il parle déjà 3 langues quand même, c'est déjà pas mal.
Qui, Zizou?
Eh oui. Ouais.
Espagnol, français, italien.
Français, oui.
D'accord, mais ne pas parler anglais pour un coach de très haut niveau, pour moi, c'est une énorme carence en fait. L'anglais, je comprends pas. Moi.
Ouais.
Christophe, quand tu.
Il n'y a pas que ça.
Ou David, mais en tout cas, la première ligue, c'est là où il y a les meilleurs entraîneurs, là, pour rejoindre Stephen. Tu vois Klopp, Guardiola, tous les week-ends, t'as des.
Ils ont des familles aussi,
ils vivent à Londres, ils ont des familles.
Mais non, mais ils ont pas. C'est en fonction de tes
amis. Mais il fait 20 ans qu'il habite à Madrid, Londres. C'est pas l'Angleterre, c'est Manchester.
À Londres, c'est pas catastrophique comme ville non plus.
Ah, il fait. Au niveau du temps, c'est pas la même.
David.
Non, mais ils ont pas la même vie, ils ont pas le même passé. Qu'est-ce que vous me comparez des choux farcis et des carottes râpées, là? On parle d'un immense champion, déjà, au départ.
Là, tu t'adresses à Stephen, pas à moi.
Évidemment. J'avais pas besoin de préciser, je crois.
Oui, mais j'aimerais que tu le reprécises.
Non, mais.
Pourquoi tu reviens toujours à la bouffe, David?
Ben, parce que c'est la métaphore que tu comprends le mieux. Voilà. Donc, on va faire des choses simples. Non, mais l'idée, elle est là. Il faut prendre l'ensemble de la vie du personnage pour comprendre ce qu'il veut faire et comment il le fait aujourd'hui. Vous me comparez des entraîneurs qui n'ont pas eu le quart, du dixième, du millième de sa carrière sportive en tant qu'athlète à des entraîneurs classiques, à lui. Et donc, tout ça, c'est un tout. Zizou, c'est un tout. Zizou, c'est pas que sa vie d'entraîneur, c'est aussi tout ce qu'il a été avant. Et Denis, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'un grand champion comme lui, dans ses qualités d'entraîneur pur, c'est forcément quelqu'un qui est au-dessus des autres. Voilà, c'est tout.
Et alors?
La vision du jeu, la connaissance du jeu, etc. Voilà, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, dans ce choix de vie, il n'est pas pressé, le garçon. Sa deuxième vie d'entraîneur, et j'ai déjà donné la réponse, c'est une deuxième vie pour lui. La première, il a tout rempli. Son ego, son envie des, son rêve d'enfant, etc. Tout ça est fait. Oui, aussi, ben oui, t'as raison, c'est important, son portefeuille. Je pense que Zizou, il a plus besoin beaucoup de bosser, quoi. Voilà. C'est quelque chose que, tout ça, c'est des cases qui sont faites. Et donc, il a le droit, compte tenu du talent qu'il a, de la qualité et de ce qu'il a prouvé en Espagne, surtout. Parce qu'il n'aurait pas prouvé ce qu'il a prouvé en Espagne en tant qu'entraîneur. On pourrait se dire, oui, il a encore son statut d'athlète, il est encore trop sur le piédestal, il n'a rien prouvé en tant qu'entraîneur. C'est l'inverse. Voilà, donc je suis désolé, mais là, on a peut-être un des plus grands entraîneurs que le foot ait eu. Voilà. Et donc, il a le droit. Tu peux pas. Aujourd'hui, il a le droit et il a le temps de mégoter. Il avait en vue l'équipe de France. Ça lui est passé sous le pif. Bah, c'est, moi, je trouve ça malheureux, d'ailleurs. Je trouve que, un entraîneur national, ça, c'est mon propre, doit savoir partir. Bon, voilà. C'est trop long. Voilà. Faut changer d'époque. Faut changer de mouvement, etc., etc. Et Zizou aurait été parfait pour remplacer, Dédé sur cette affaire-là. C'est, bon, on sent un truc, on rallonge la chose tout le temps, etc., etc. C'est dommage. Donc il a laissé passer probablement le PSG. Le projet du PSG, il est peut-être pas aussi simple que lui, compte tenu des gens, des stars qui sont là. Peut-être qu'il l'a pas senti. Il a le temps. Enfin, c'est ça que je veux vous dire, c'est que il a pas un couteau sous la gorge, quoi. S'il a pas de club encore, là, c'est pas très très grave. Les qualités, il les a, il les conservera, il les aura pour toujours.
Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'il fait gaffe, parce qu'il peut pas se permettre d'aller dans n'importe quel club sans avoir l'assurance que
il veut peut-être tout contrôler.
Il
aussi
des moyens, il veut contrôler, bah oui. il veut parfaire son image.
Donc il veut la solution de facilité.
C'est la solution la plus dure.
Non, c'est la solution qui lui permet d'être le mieux, le plus confortable,
le plus efficient.
Mais dans ces cas-là, il va coacher Team USA au basket. Il y a pas grand risque. Hein. Il va gagner toutes les compétitions et il va être peinard.
Oui. Ouais, non, mais pourquoi, alors on avait déjà parlé, mais pourquoi pas, moi je veux dire, aller devenir le sélectionneur du Brésil, moi je trouve ça vachement bien. Je trouve que ce serait une très très bonne idée. C'est la meilleure équipe du monde, ce serait un challenge incroyable, et puis surtout, ce serait faire la nique à tous les gens de la Fédération française.
Ouais, mais non, mais là c'est pas bien.
J'en profite qu'il n'y a pas JC parce que je dis ça, ça lui fait pousser les boutons. Ouais,
moi je suis partagé sur cette question, tu vois, je suis pas comme JC, je trouve que ça serait assez claquant de voir Zidane à la tête de.
Moi, j'aimerais pas, mais bon, je l'ai déjà dit.
C'est quand même le plus brésilien des joueurs français.
Après, je veux pas minimiser ce qu'a fait Zidane avec le Real Madrid. C'est fantastique. Mais je suis désolé. Il y a toujours quelques doutes sur la qualité d'entraîneur de Zinedine Zidane.
Mais non, il ne peut pas y avoir de doutes.
Ces doutes seront éteints quand il ira ailleurs dans un autre championnat et qu'il performera.
Stephen, c'est la grande question de savoir c'est quoi c'est un entraîneur. Parce que quand tu me dis ça, quand tu me dis ça, alors, en rugby, on le voit,
il n'y en a pas tous qui ont réussi partout.
Mais les grands entraîneurs, c'est quoi aujourd'hui? Je suis désolé, même en rugby, c'est la même chose. C'est des grands mecs qui managent. C'est les managers. Mais oui, mais ça veut dire quoi, entraîneur?
Ils ont des mecs. Mais un grand entraîneur, c'est celui qui a des résultats. Point.
Eh oui, mais c'est ce que je te dis. C'est exactement ce que je te dis. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de connaître le jeu ou d'être le plus performant dans la technicité du jeu ou de ton sport. C'est savoir gérer les hommes. Pour moi, la plus grande difficulté du sport,
la plus grande difficulté des meilleurs entraîneurs, c'est aussi la meilleure.
Il gagne pas. Alors, excuse-moi,
Guardiola, c'est un des meilleurs.
Oui, très très bon. Il gagne pas. Donc,
oui, t'as raison. C'est clair.
Si c'était
le
plus grand, Barcelone, tu vas me dire qu'il avait des joueurs. Combien d'années Barcelone? C'est justement, Guardiola, c'est un très bon exemple, justement. Il y a combien de temps qu'il a gagné à Barcelone?
Il y a 10 ans.
Il n'a jamais regagné derrière. Donc ça veut dire exactement ça. Ça veut dire que tu es en train de m'expliquer, toi, François, que c'est le plus grand entraîneur, le plus grand technicien, qui ne gagne pas. Moi, le plus grand technicien.
Il gagne dans le meilleur championnat.
Mais arrête, le plus grand championnat. Parce que tu décrétais que le championnat anglais est le plus grand championnat. Oui, vous avez décrété.
Il y a plus de concurrence.
Oui, bien sûr. Moi, je les vois, les matchs. Écoute-moi, il y avait des matchs pourris comme
en Ligue 1. Excuse-moi.
Il y a beaucoup plus de densité.
Moi, ce que je dis pour finir,
c'est une force déjà.
Je dis qu'aujourd'hui, entraîner, c'est être celui qui est le plus capable de manager et de s'occuper de la gestion des hommes. C'est pour moi, c'est ça, que j'ai des hommes, des joueurs. Et c'est la fonction la plus difficile aujourd'hui.
Et c'est de plus en plus difficile compte tenu de leur statut.
Absolument.
C'est monstrueux. Quelle crédibilité peut avoir un entraîneur qui n'a pas eu le parcours de Zidane face à des joueurs qui sont des superstars, qui sont des milliardaires aujourd'hui, etc., etc. Mais enfin, c'est compliqué. Déjà, quand il n'y a pas tout ça, rappelez-vous quand vous étiez athlète, un entraîneur qui, à un moment donné, était peut-être pense à ton prof de tennis, Christophe. Un entraîneur qui, à vos yeux, à un moment donné, parce que ça vous traverse l'esprit, à un moment donné, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Il a pas fait la moitié de ce que je suis en train de faire, quelle crédibilité il a. Rien que sur le plan sportif, ça peut être compliqué. Vous imaginez sur tout le reste. Il peut pas comprendre ma vie, il peut pas comprendre ça, mes agressions médiatiques, etc., etc. Zizou, il connaît tout ça par cœur. C'est énormissime. Donc la crédibilité qu'il a aux yeux de n'importe quel joueur aujourd'hui, même si c'est le meilleur du monde, il l'a, de facto il l'a.
D'un mot, David, où est-ce que tu rêverais de le voir, Zidane? Dans quel club?
Bourg-en-Bresse.
Moi, On a sillonné la lune, on a fait match nul hier soir face à Dunkerque. On s'en est bien sorti parce qu'on a été dominé.
Merci.
Bourg-en-Bresse, pourquoi pas, on l'accueille à bras ouverts. Non, par contre, moi je rêverais de le voir en équipe de France. Voilà.
En équipe de France. Bon, on ne sera pas pour.
C'est trop tard. Donc.
Écoutez, vous me posez une question, je réponds, les amis.
Oui, mais tu n'aurais pas à côté.
Toi, c'est PSG.
Tu veux que je te réponde ou
non ? Non, mais le PSG, oui, équipe de France.
Moi, je veux le voir en Angleterre.
En Angleterre.
Oui.
Et toi ?
Je te l'ai dit, moi, à la tête de la Célestin.
Très bien, ok. On verra s'il vous écoute, en tout cas, Zinedine Zidane.
Je suis pas sûr.
Ouais, le GC Nice, pourquoi pas le GC Nice ?
Oui.
Ah, Roger Ineos, ouais. Avec Zidane, tac.
Ah, tiens, magnifique.
Ah, ouais. Enfin.
Mais là, ce serait prendre un risque, quand même.
Dans un instant, les grandes gueules du sport qui reviennent avec une punchline signée Zlatan Ibrahimovic qui a reparlé des Argentins de leur victoire. Les Argentins se sont mal comportés d'après Zlatan et on ne gagne pas comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec Ibra ? On en parle dans un instant sur RMC. À tout de suite.
Pourquoi parler quand on peut voler ?
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
9h31, on est de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission du week-end de 9h à midi tous les samedis et tous les dimanches, toujours avec Christophe Cessieux, Stephen Brun, David Douillet et Denis Charvet ce matin. Bonjour. À 9h45, le zapping des GG, le fameux on s'en fout pas, on parlera de basket NBA et du PSG, de Marseille, de vélo aussi, il y en aura pour tous les goûts. Et puis dans un instant, on retrouvera Eric Salio à Melbourne pour la finale dames qui a débuté entre Sabalenka et Rybakina. On suivra cette finale bien évidemment dans les grandes gueules du sport. Mais d'abord, c'est la punchline des GG avec Zlatan Ibrahimovic qui s'y colle aujourd'hui.
RMC, la punchline GG.
Ce qui va se passer, c'est qu'il va gagner encore une Coupe du Monde, Mbappé. Donc moi, je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Je suis inquiet pour les autres en Argentine. Parce que Messi, on se souviendra de lui. Mais les autres qui se sont mal comportés, ah, on ne peut pas respecter ça. Pour moi, c'est un signe que vous allez gagner une fois, mais vous ne gagnerez plus. Parce que on ne gagnera pas comme ça. Si vous comprenez de quoi je parle.
Zlatan Ibrahimovic interrogé lors de sa tournée médiatique autour de la sortie d'Astérix, où il joue d'ailleurs le rôle du centurion antivirus. Alors cette question, les GG, êtes-vous d'accord avec Zlatan ? Est-ce que les vainqueurs ont tous les droits ? Oui ou non ? Denis Charvet ?
Non.
Non. Stephen Brun ?
Moi j'aurais tendance à dire oui.
Christophe Cessieux ?
Non.
David Douillet ? David Douillet ?
Ouais, je suis partagé là-dessus.
Ça m'étonne que tu sois partagé, David. Alors là,
je vais dire non.
Plutôt non. Ok, donc c'est Stephen qui est encore tout seul sur le oui, mais on va d'abord demander à Christophe.
Je veux bien épauler Stephen, si j'ai. Voilà.
D'accord, ok. Christophe.
C'est vrai que ce genre de sortie, ça fait du bien à notre orgueil de Gaulois touché par la défaite des Bleus. Le comportement est effectivement très limite de Martinez et consorts. Maintenant, les mauvais comportements sur et en dehors du terrain, il est quand même coutumier du fait. Hein. Zlatan, à son époque, c'était quand même pas le joueur modèle par excellence. Quant à savoir si on se rappellera plus de la victoire argentine ou de leur comportement déplacé lors des célébrations, je pense que ça dépend de là où tu te places. En Argentine, je pense que ce seront toujours des héros incroyables. Il n'y a pas que Messi, tous les autres sont champions du monde. Et dans un pays qui est touché par la grâce du football, évidemment, ça restera des héros pendant des dizaines d'années. Chez nous, en revanche, c'est sûr que ces gars-là, on les porte pas dans notre cœur. Et je pense que ce qu'ils ont fait n'a rien fait pour arranger l'amitié franco-argentine. Autant jusqu'à présent, on était tous un peu sensibles à l'Argentine, à ce pays, au tango, à Maradona, à Messi. Mais là, ce qui s'est passé, il y a une retenue désormais. Hein, les Argentins, on les porte plus vraiment dans notre cœur. Alors ça passera sans doute, mais je suis d'accord avec lui. Ils auraient pas dû agir de la sorte. Voilà.
Mais j'ai pas donné Zlatan pour avoir mon opinion, surtout.
Oui.
Je suis surpris qu'à la table vous n'avez pas été tous choqués de l'attitude des Argentins.
Moi j'ai pas été choqué. Je le dis quand on.
Moi je trouve que ça fait pas partie du sport. Que c'est quelque chose qui est pas fait partie du sport. De nos mentalités, c'est pas dans l'esprit du sport.
Voilà, c'est Pierre de Coubertin.
T'as
serait
raison, t'as raison,
Pierre
oui,
de Coubertin,
oui.
il doit se retourner dans sa tombe. Je suis désolé, c'est un champion, c'est un symbole, quoi. C'est un symbole, c'est un exemple pour toute une génération future. Tu te dois être exemplaire, surtout quand t'es sur le devant de la scène. Et moi, je trouve choquant aussi que Messi n'ait pas réagi quand ils ont eu le jour de la parade à Buenos Aires, quand ce gardien que je nommerai pas,
Martinez,
voilà. Donc c'est pour moi, c'est hors sport, quoi. C'est-à-dire que ça va au-delà. On aurait dû sanctionner ces gens-là.
Ah oui.
Ça fait pas partie de ma culture. Donc, j'ai pas grandi dans cette culture-là. Voilà. Je trouve que,
T'as pas le droit de chambrer quand tu gagnes.
Mais chambrer, tu peux chambrer, mais pas comme ça, quand même. C'est des gestes obscènes, d'abord. Le goal que, si on veut parler de ce qu'ils ont véritablement fait, le goal qui fait ce qu'il fait sur la scène, je sais pas, ça vous choque pas, vous. Vous trouvez ça normal, quoi. Oui. Le mec, il prend un truc, non, mais sans déconner, mais, je suis choqué que vous soyez pas choqué, quoi.
Après, on est choqué.
Mais en plus, sans prendre à Mbappé, en plus, qui a été héroïque, qui a été exemplaire, c'est quoi l'histoire? Pour moi, c'est quoi l'histoire de ce gardien?
En fait tu parles avec ton cœur de Français.
Oui. Je parle à ma culture, dans les valeurs
du rugby.
Non, pas que le rugby, dans les valeurs de la vie même. C'est pas que le sport. Je suis désolé. Ce que fait ce mec-là et ce que fait
Dibou
Martinez, je sais pas comment. C'est pas que le sport, c'est la vie, messieurs. Je sais pas.
La vie en France, mais en Argentine. Enfin, on se rend pas compte. C'est la culture. La culture est différente. Après, pour revenir sur Zlatan, je crois que bon, il nous a tous attrapés. Encore une fois, il a envoyé une punchline. On s'est jeté dessus, voilà.
Il
a envoyé un hameçon, il a mordu 2-3 pigeons, hop, on en est là.
Parce qu'il me dérange.
Tu nous prends pour des pigeons, non,
les Argentins, ils ont gagné la Coupe du Monde sportivement, on peut pas leur enlever. Après, que ce soit Zlatan qui dit ça, Zlatan n'était pas connu non plus pour son humilité
choses.
Il n'était pas connu pour être irréprochable sur le terrain, combien de fois il a voulu se battre avec des mecs en mettant des gifles et des tartines. Après, personne ne peut se mettre à la place d'une équipe et d'un peuple qui attendait ça depuis 1986, et Christophe l'a dit, la ferveur en Argentine, chacun gère ses émotions à sa façon. Il y a des façons plus ou moins élégantes de célébrer. Celle des Argentins ne nous a pas plu parce qu'on était aussi du mauvais côté. Après, de là à affirmer que l'Argentine ne gagnera plus jamais une Coupe du Monde parce qu'ils ont été arrogants et inélégants sur les célébrations.
Il le dit, c'est par rapport à un vœu que.
Dans ces cas-là, il dit j'aurais préféré que la France gagne plutôt que détruire.
Oui, mais il le dit d'ailleurs, je crois, non, je pensais
que. Ouais, il dit Mbappé a plus de chances de regagner, oui. Voilà, que les Argentins.
Enfin là, il était dans la promotion d'un film français. Je pense que s'il avait tourné dans un film argentin et qu'il avait fait une déclaration de 2 heures, il n'aurait pas eu ces déclarations.
Non, mais attends, je vais parler après David. Attends, on a l'impression qu'on pardonne davantage aux Argentins qu'aux Français. Imagine un Messi avec Lloris qui gagne champion du monde. Non, mais je veux dire.
T'as raison.
Inverser le truc. Moi, je veux dire, vous serez, mais c'est pas choqué là. Le mec, il serait en garde à vue. Non, mais je sais pas, moi.
Bah non, Lloris, il m'aurait régalé s'il l'avait fait.
Oui, mais toi, peut-être, mais il ne faut pas exagérer.
Ça aurait fait polémique.
Ça aurait fait scandale chez nous.
Oui, chez nous.
Alors que les Argentins, ils n'ont pas fait scandale, ce qui s'est passé.
D'ailleurs, Tagliafico, et je te donne la parole, qui est l'Argentin de Lyon, qui a pris la défense cette semaine de Martinez, justement, en parlant d'émotion qui explose et de l'adrénaline. Voilà comme il explique le geste un peu déplacé de Martinez. Cela peut faire que l'on peut agir bizarrement. Voilà. Ceux qui connaissent Martinez savent que c'est une bonne personne et aussi quelqu'un d'un peu fou. Voilà ce que Tagliafico pour défendre son coéquipier.
Donc on pardonne, ok, d'accord, très bien.
Non, on ne pardonne pas.
Il essaie d'expliquer les gestes un peu fous en disant que voilà, il y a l'adrénaline de
la victoire. Donc un mec qui tue, on le dit.
C'est là où je voulais.
Mais si on va dans l'excès, c'est ça ce que tu es en train de dire, ce qu'il est en train de dire le mec.
Non. Ce que je voulais dire, c'est que Audiard disait les cons savent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît. Bon voilà, ils ont été cons, c'est tout. Et tu le sais bien, on le dit. Je suis d'accord avec vous, hein, c'est très con. Sauf que la connerie, elle vient de quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Et on vient de l'expliquer. Et vous savez tous très bien que des gens qui d'un seul coup du jour au lendemain se retrouvent milliardaires, qui gagnent au loto, t'as un fâcheux piège à devenir con. Des gens qui accèdent au pouvoir d'un seul coup du jour au lendemain sans être préparés à ça. bah, t'as une fâcheuse tendance, t'as une vraie possibilité à devenir con. Et des gens qui accèdent à une notoriété comme ça, aussi brutale, eh ben, tu peux être dans la connerie pendant un bout de temps, croyez-moi, mais je vous le dis. Donc ça, pour moi, il faut le prendre en mesure.
Donc,
parce que c'est tellement violent, c'est tellement soudain, c'est tellement fort, que d'un seul coup, eh ben, tu perds ta réserve, tu perds ton contrôle, et puis boum, tu. Alors ça, c'est pas pardonnable, d'accord.
Non, mais ça
moi, ce qui me gêne aussi, c'est que ce soit Ibra qui ait porté ça. Et je suis d'accord avec vous, il est en promo pour un film français, etc. On n'est pas dupes, quoi. Voilà. Mais il est très, très bon, très intelligent. En plus, lui, dans sa personnalité, je veux dire, c'est peut-être le plus mal placé pour en parler. Mais bon, soyons un peu. Prenons du recul par rapport à tout ça. On est toujours à travers la loupe des médias.
Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec
attention,
toi. Quoi. Pour moi, il y a pas de circonstances atténuantes. Toi, tu es en train de dans ton discours de dire qu'il y a des circonstances atténuantes. Pour moi, il y en a aucune. Aucune. Dans ces cas-là, il y en a aucune. Je suis désolé. Après, c'est chacun
Denis,
c'est son avis.
Hein. Denis, remets-toi dans le contexte.
Mais c'est pire. Tu pètes un plomb justement. T'as tous les ingrédients
pour pas un plomb.
Mais non, tu dois être responsable justement.
Mais c'est là justement où c'est le plus dur.
Tu as été plus en Argentine, mais c'est facile de le dire. Tu sais que ces gens sont des dingos de sport et que ça pour eux c'était le truc le ultime.
Il y a une espèce d'hystérie collective, c'est normal.
La dignité,
vous la mettez où,
Denis?
Je viens de te dire que la connerie a prédominé.
Mais moi, c'est la décadence. Là, on est dans la décadence. On n'est pas à la grandeur.
Denis, on a tous été idiots. Les grands célébrants un trophée. Vous, les rugbyman, vous avez parfois.
Jamais.
En soirée, avec un peu de canon dans le nez, un peu, vous avez
mais ça n'a rien à voir.
Un peu.
Est-ce que tu crois qu'il était à jeun, lui, sur le
mais il est exposé, tout le monde le voit, des millions de gens le voient, c'est pas la même chose, Stephen.
Denis, tu peux être en soirée.
Il a pas chambré,
tu vois,
quand t'as été champion de France avec Toulouse il y a quelques années.
Mais hein, non, je me suis pas exposé, ça n'a rien à voir, c'est pas la même médiatisation. Je reparle de, à la base, c'est un champion, c'est un exemple, c'est un symbole. Il doit être irréprochable.
Tu as raison.
Il n'y a pas de circonstances atténuantes, je suis désolé.
Si. Mais non. Quelquefois, mais bien sûr, surtout dans un groupe aussi nombreux. Tu serais tout seul, tu vois. Quand t'es tout seul, t'es facile à te gérer. Mais quand t'as un groupe aussi nombreux,
putain. Mais tu plaisantes, quand t'es le mec qui monte son trophée à la place du sexe, sur la scène, qui sait qu'il y a 1 milliard de mecs qui le regardent, tu me dis, tu m'expliques qu'il y a du monde. Il est tout seul, David.
Mais il est devant la terre entière, il le sait bien.
Mais vous savez ce que ça veut dire, son geste ou pas? Vous savez pas ce que ça veut dire?
Oui, on a compris.
Non, mais voilà. Donc, si vous êtes content et fier de ce que le mec nous envoie,
Moi, on l'a dit, c'était une connerie. Tout le monde a son sang froid, je suis pas courageux, je suis scandalisé.
On va retrouver Eric Salio parce que on va suivre la finale dames de l'Open d'Australie. Entre Sabalenka et Rybakina. Salut Eric, en direct avec nous de Melbourne.
Salut les grands gars. Salut Eric. Je vois que vous êtes enthousiaste.
Si. Que c'est une finale toi, Eric. Qui est assez ouverte quand même entre la Biélorusse et la Kazakh. Donc intéressant.
Biélorusse et la Kazakh. Non mais franchement, ça fait rêver. Hein.
Alors, en fait, c'est une Biélorusse face à une Russe puisque Rybakina est née à Moscou. Elle a été achetée par la fédération kazakh. Hein. Elle a fait un petit appartement de fonction, un petit peu de pépette, et puis voilà quoi. Et comme ça, elle est devenue. Elle défend les couleurs du Kazakhstan, mais elle est russe.
Ah ouais.
Voilà. Ah ouais,
elle est russe. Donc, russe face à une Russe. D'accord.
Elle est kazakh de famille depuis mars 2021, c'est ça. On est d'accord.
Non, un petit peu en amont quand même. Mais parce que la fédération russe ne croyait pas en elle, c'est ça qui est rigolo. Et donc elle manquait de moyens financiers. Et donc quand la proposition de la fédération kazakh est arrivée, elle a dit oui. Et là, les Russes, ils s'en mordent les doigts parce qu'elle a gagné Wimbledon l'été dernier et elle va peut-être ajouter un deuxième titre majeur à son palmarès face à une fille qui découvre l'atmosphère d'une finale de Schlem, Arina Sabalenka, l'ultra puissante Sabalenka, l'extravertie Sabalenka. Donc ça va être une finale qui est très ouverte parce que ça va jouer à mon avis sur les émotions. Donc on va suivre ça dans quelques secondes. Puis c'est l'occasion de dire que la gagnante va succéder à Ash Barty qu'on a vu sur le court il y a une dizaine de minutes puisque c'est elle qui a déposé la coupe sur le court. Ash Barty qui a mis un terme à sa carrière et qui est enceinte. Elle était habillée tout de noir, tout de noir. C'était magnifique.
Très bien, Eric. On se retrouve bien sûr pour cette finale qui n'a pas encore commencé entre Sabalenka et Rybakina. On suivra ça bien sûr de très près ce matin dans nos grandes gueules. Dans un instant, le zapping justement des GG avec du vélo, du basket. Tiens, on parlera de patinage aussi. Patinage artistique. J'espère que vous êtes prêts, messieurs. On en parle dans un instant sur RMC dans les grandes gueules. À tout de suite. RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC.
C'est quoi l'histoire?
Les grandes gueules du sport.
C'est pas que le sport, c'est la vie, messieurs, je sais pas moi.
9h midi.
Mais la dignité, alors la dignité, vous la mettez où?
François Pinet.
Et oui, ça parle de dignité dans les grandes gueules du sport avec Denis Charvet, David Douillet, Christophe Cessieux, Stéphane Brun, qui sont nos grandes gueules ce matin.
Valeur de l'Ovalie.
Et oui, bien sûr. À partir de 10h, les GG qui passent la seconde. On parlera du 15 de France. On reviendra, bien sûr, sur les affaires au sommet du rugby français. Et puis, cette question aussi, puisqu'on est à une semaine du tournoi Destination. Gagner pour le 15 de France, c'est très bien. Il y a 13 victoires d'affilée. Mais la manière a-t-elle de l'importance? On en parlera aussi avec Wilfried Templier. Ça sera à 10h. Mais d'abord, le zapping des GG.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Nous, on s'en fout pas. Je rappelle la règle, plusieurs infos à vous donner. À vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse, vous avez le droit de parler. Sinon, vous passez votre tour. Et si tout le monde s'en fout, on zappe l'info. La première info, elle est toute fraîche puisqu'elle date d'hier soir. Un Français champion d'Europe de patinage artistique. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Denis Charvet.
Moi, je m'en fous, mais c'est normal, Christophe ne s'en fout ou pas.
Toi, pourquoi?
Le patinage artistique.
Bah, tu sais que j'ai commencé. C'est les premiers sport. Trucs que j'ai commenté à la radio, c'était patinage artistique. Je peux dire que j'étais vraiment bien embêté.
Oui, c'était un massacre, je me rappelle.
Stéphane Brun,
écoute, moi, non, mais je crois que Christophe a beaucoup de choses à dire, donc je vais écouter.
David Douillet.
Ah, moi, je m'en fous pas.
Ah, il s'en fout pas.
Ah, oui, champion.
Voilà la dignité, elle est là.
J'ai vu David sur les patins.
Tu l'as trop pensé.
Il est OK sur glace.
Je suis
élégant. Coin dans les barricades, peut dire que ça va pas faire du bien.
Il s'appelle Adam Xiao Imfa. Il remporte à 21 ans, il aura 22 ans d'ailleurs mardi prochain, le titre de champion d'Europe. Une première pour un Français depuis 12 ans et Florent Amodio, le dernier à avoir remporté le titre de champion d'Europe. Et c'est le seulement 5e dans l'histoire, 5e Français à remporter ce titre. Alors pourquoi tu t'en fous pas, David?
Bah parce que justement, on le découvre. C'est ça qui me rend dingue, c'est-à-dire que on suit pas assez les sports. Voilà, on suit que les sports dont on vient de parler d'ailleurs, et des pépites comme ça qui sont en train d'éclore tranquillement et qui font leur chemin et qui arrivent d'un seul coup à l'éclosion à 21 ans. Eh ben, je trouve qu'on ce sont des disciplines qui ne sont pas suffisamment mises à l'honneur, pas suffisamment médiatisées. Et qui,
elle l'était quand même, David.
Oui, il y avait des personnages
artistiques. Dis donc, pendant une période,
si ça a été
un des sports les plus médiatisés au monde. Hein.
Elle est, oui, elle est après, mais je parle en France, hein, chez nous.
Mais même en France.
Oui,
rappelle-toi,
quand on a des champions.
De Bonali, de Candeloro.
Oui, je sais bien, mais ils avaient éclos.
Ça cartonnait sur TF1.
Je sais, Christophe, t'énerve pas.
Ouais, je bien.
Non, mais moi, ce qui pêche un peu, c'est que toute la phase avant d'avoir des champions, on n'en parle jamais. Puis d'un seul coup, paf, on a un champion. Mais d'où il sort, lui? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière. Voilà. C'est ça qui me gêne un peu. Et ça, c'est dans beaucoup de disciplines. C'est pour ça que je profite d'avoir la parole pour le dire. Parce qu'il y a beaucoup de disciplines où il y a des histoires fabuleuses, etc., etc., où les types ou les personnes n'arriveront pas à éclore. Mais il y a des belles histoires et ça, on n'en parle jamais, malheureusement.
Alors, Christophe, non, tu as raison.
C'est qui se parle?
C'est Denis qui parle de dignité, qui se fout de notre gueule parce qu'on s'intéresse au patinage.
On sent quand même ton expérience.
Tu te moques de moi, Denis?
Non, pas du tout, David. On a la passion, on sent ta passion, vraiment.
Non, mais je te jure que le premier truc que j'ai commenté, c'était le patinage.
Non, mais le voir.
Vas-y, Christophe, qu'est-ce que tu veux dire sur ce jeu de
triple
compliqué,
triple axel, triple lutz?
Non, mais vous vous moquez, mais le patinage, vous avez glissé sur les patins. C'est super dur.
Sport magnifique et ce gars-là, franchement, il fait plaisir.
Mais attends, on va le suivre.
Après, il faut savoir que dans ce sport, les Russes raflent tout depuis des dizaines d'années. C'est eux qui ont remporté les deux derniers titres de champion d'Europe. Donc, attendons qu'ils reviennent pour juger vraiment la performance. Mais en tous les cas, c'est magnifique d'avoir un Français. Ça faisait
12 ans.
2011, je crois, le dernier titre de champion d'Europe.
Ça, 12 ans.
Amodio.
Ouais. Donc, c'est rare.
C'est magnifique.
Amodio.
Bravo.
Mais j'aime la gastro, lui. Il me prenait des images Amodio.
Mais je j'aime beaucoup le patinage artistique.
Je comprends rien.
Je vais bien le regarder.
Très bien. 9h50. Une deuxième info, les amis, dans ce zapping. Le cycliste Nasser Bouhanni, de retour à la compétition hier. Voilà. On s'en fout pas. Stéphane Brun.
Pardon? Nasser Bouani, je m'en fous.
Ah, c'est moche. Christophe Cessieux.
Ben non, je m'en fous pas, évidemment.
Denis Charvet.
Je m'en fous pas parce que j'aime bien ce coureur. Mais je vais laisser Christophe.
David Douillet,
qui est le spécialiste.
Je m'en fous pas, mais je laisse Christophe.
D'accord. Donc tu vas être tout seul, Christophe. Sur Nasser Bouani, qui est le sprinteur de l'équipe Arkéa Samsic, qui a repris la compétition 9 mois après sa grave chute lors du Tour de Turquie. Ça se passe en Espagne, c'est le Challenge de Majorque. Bon, ça n'a pas été facile, hein. Il a été un peu décroché, il a terminé 93e. C'était en montagne, c'était pas un parcours pour lui. Mais voilà, toi tu voulais peut-être saluer son retour.
Ouais, alors déjà te dire qu'on l'a eu en interview dans notre podcast Grand Plateau consacré au vélo. Donc,
le dernier épisode de Grand Plateau, vous pouvez retrouver
sur les plateformes. Et ensuite pour dire que ce garçon est quand même passé très très proche d'un très grave accident il y a 9 mois. Il a failli rester paralysé, s'est passé à 2 doigts, sa colonne vertébrale a été touchée avec une fracture de la vertèbre.
De course ou de route
En course. Mais pas en sprint. Il s'est retrouvé, il y a un spectateur qui marchait sur le bord de la route en Turquie et le peloton ne l'a pas vu, ils l'ont chopé plein fer et c'est Nasser qui a été le plus gravement touché. Donc voilà, c'est un beau retour. On rappelle que c'est quand même un des meilleurs sprinteurs français, mais qu'il a pas été épargné par les soucis depuis quelques années, donc on espère évidemment qu'il va pouvoir retrouver la gagne d'ici la fin de la saison.
Rien à rajouter?
Non.
Denis, David, non, c'est bon. Stéphane, je te pose pas la question.
Voyons.
Peut-être que la prochaine information va t'intéresser. On parle d'un demi-finaliste du mondial à l'Olympique de Marseille. Unai serait tout proche de l'OM d'après des informations RMC Sport. On s'en fout? On s'en fout pas. Denis Charvet?
Non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas. Stéphane Brun?
Oui, ça m'intéresse.
Christophe Cessieux?
Je m'en fiche.
David Douillet.
Moi aussi.
Très bien. Info RMC Sport, l'OM et Angers sont tombés d'accord pour un transfert du milieu de terrain de 22 ans qui avait vraiment éclairé l'équipe marocaine à la Coupe du Monde. Ils ont trouvé un accord, les deux clubs, pour une somme autour de 10 millions d'euros, avec les bonus compris, et un fort pourcentage à la revente. Un contrat de 4-5 ans attend le joueur marocain qui veut rejoindre les Phocéens, donc il manque quelques détails pour boucler cette affaire. Pourquoi tu t'en fous pas, Stephen?
Parce que c'était un petit peu le feuilleton d'Angers, et que surtout je pense que Marseille a fait une belle affaire au niveau du tarif, je crois que c'est 8 millions plus de bonus, donc ça devrait être à 10 millions alors qu'il y avait des prix ahurissants qui sortaient à l'époque où Unai était avec le Maroc, et quand il rentre à Angers on parlait de 30, de 40 millions. Écoute, c'est un bon coup. On s'aperçoit que Longoria est toujours un petit peu dans l'anticipation, parce que est-ce que Guendouzi va partir là ou est-ce que Guendouzi va partir l'été prochain, donc ils ont déjà mis la main sur un garçon qui serait susceptible de remplacer Guendouzi. Il a 22 ans, je pense qu'il a encore une belle marge de progression, donc écoute, je pense que c'est un bon recrutement de la part de l'OM.
Denis, c'est un très bon coup financier, parce qu'effectivement le garçon il a prouvé au mondial, mais après c'est toujours pareil à Marseille, tous les joueurs qui arrivent à Marseille ne réussissent pas, donc quel que soit le talent, donc attendons. Moi il m'a beaucoup impressionné durant le mondial. Angers, il n'a pas été toujours performant, mais bon, c'est jamais, dans un contexte comme celui de l'OM il sait son niveau. Mais je pense que c'est un bon coup pour Marseille.
En tout cas, l'OM qui n'a pas fini son mercato, parce que Mofi visiblement préfère l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille. et ils ont laissé partir Dieng à Lorient hier, donc ils recherchent activement un attaquant, les Marseillais. Ça peut bouger encore dans les prochaines heures. Fabrice Hawkins est sur le coup puisqu'il est préposé au mercato sur RMC, donc toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr. Eric Salio, la finale a débuté, Rybakina contre Zabalenka, finale dames de l'Open d'Australie. Eric?
Ouais, avec un premier break réussi par Elena Rybakina, elle mène donc 2-1. Et Sabalenka, qui rejoint sa chaise, doit se dire, mais comment c'est possible? Elle menait 40-0, donc elle a perdu 5 points d'affilée. Et donc la voilà en position délicate dans cette finale face à une joueuse qui, rappelons-le, a éliminé en huitième de finale Iga Świątek. Donc c'est une tueuse, hein, c'est une tueuse au sang-froid, hein, tueuse entre guillemets, bien sûr. Moi je trouve qu'elle ressemble un peu à Sharapova avec cette froideur. Mais c'est une fille qui a vraiment une grosse frappe de balle qui sert très bien déjà à 3 aces. Donc 2-1 pour Rybakina, la Kazakhstanaise.
Et on parlera de la finale homme, bien sûr, Djokovic-Tsitsipas demain dans les grandes gueules du sport. Ça sera demain à 9h30. On continue de suivre cette finale avec toi, Eric. Retour du zapping, ça sera également demain. Et dans un instant, les grandes gueules qui passent la seconde avec le 15 de France qui se prépare pour le tournoi des 6 nations. Ça débute le week-end prochain avec Italie-France. Ok, les Bleus, ils gagnent, on l'a vu. Mais est-ce que la manière a de l'importance? On vous donne aussi les toutes dernières infos sur la Fédération française de rugby. Restez avec nous sur RMC. À tout de suite dans les grandes gueules.
Les grandes gueules du sport.